Chapitre 14. Le mutant. Le hangar est une véritable institution sur Kalgan. Cette gigantesque installation est née de la nécessité de prendre en charge le nombre incalculable de vaisseaux qui se posent quotidiennement sur cette planète et de la nécessité corollaire de loger tous leurs passagers. L'individu qui a eu le premier l'idée de mettre en pratique cette solution finalement évidente est bien vite devenu milliardaire. Ses héritiers, par le sang ou par l'argent, comptent désormais parmi les hommes les plus riches de Kalgan. Le hangar s'étend sur plus de 10 000 hectares. Ce terme de hangar, consacré par l'usage, est relativement inadapté en l'occurrence. Il serait plus exact de dire qu'il s'agit d'un hôtel de luxe pour vaisseaux spatiaux. Le voyageur paie d'avance. Son vaisseau est alors installé dans un berceau, d'où il peut s'envoler dans l'espace à tout moment. Le voyageur vit ensuite à bord de son propre vaisseau, sans rien devoir changer de ses habitudes. On peut évidemment bénéficier des services ordinaires d'un hôtel, tels que la fourniture de repas et de produits pharmaceutiques. L'entretien du vaisseau est assuré. On peut enfin, pour une somme dérisoire, emprunter les transports de la planète. Si bien que le visiteur fait des économies en ne payant qu'une seule note pour le garage et l'hôtel. De son côté, le propriétaire fait payer l'usage provisoire de son emplacement et empoche au passage un bénéfice qui est loin d'être inintéressant. Quant au gouvernement, il perçoit des impôts considérables. Tout le monde est content. Personne n'y perd. Il suffisait d'y penser. L'homme qui suivait en cet instant, en rasant les murs, les larges passages qui reliaient entre eux les nombreuses ailes du hangar, avait jadis médité durant ses loisirs sur l'originalité et l'utilité du système que nous venons de décrire. Mais les circonstances présentes lui dictaient à vrai dire des préoccupations bien moins futiles. Les vaisseaux, tous de taille impressionnante, étaient soigneusement alignés, rangés par rangée, dans leur berceau. L'homme passait en revue ses rangées l'une après l'autre, avec attention. Visiblement sûr de son fait, il poursuivait méthodiquement son inspection. Et si son étude préliminaire du registre du hangar ne lui avait donné d'autres précisions que le numéro d'une aile du bâtiment, qui abritait à elle seule une centaine de vaisseaux, les connaissances techniques qu'il possédait par ailleurs lui permettaient de réduire à une seule la centaine de possibilités qui s'offraient théoriquement à lui. L'homme eut un soupir à peine perceptible en dépit du silence impressionnant qui régnait entre les colossales rangées de vaisseaux. Il s'engagea sans hésiter entre deux de ces rangées, tel un insecte rampant avec détermination sous les carcasses de monstres de métal figés dans leur fière arrogance. Dans certains vaisseaux, de la lumière filtrait à travers les hublots. Visiblement, les propriétaires de ces engins avaient décidé d'écourter leur visite au lieu de plaisir organisé de la planète pour retrouver la simplicité ou du moins l'intimité de leur bord. L'homme s'arrêta. Tout autre que lui eût souri, mais ce n'était visiblement pas dans ses habitudes. Assurément, les circonvolutions de son cerveau commandèrent néanmoins l'équivalent mental d'un sourire. Le vaisseau qu'il observait désormais était racé, élancé et très rapide, à n'en pas douter. Il ne s'agissait pas d'un modèle courant. Pourtant, la plupart des vaisseaux originaires de cette partie de la galaxie copiait à présent sans vergogne l'esthétique des engins de la Fondation. Certains étaient même construits directement par les techniciens de Terminus. Mais celui-ci était très particulier. C'était un authentique vaisseau de la Fondation, ne serait-ce qu'à cause de petits renflements sur la coque qui trahissaient la présence de générateurs de champs de force, comme seul un appareil de la Fondation pouvait en posséder. Il y avait aussi d'autres signes qui ne trompaient pas. L'homme n'hésita pas un seul instant. La barrière électronique installée devant les vaisseaux par les responsables du hangar afin de ménager un tant soit peu l'intimité des propriétaires ne le gêna pas le moins du monde. Elle s'écarta facilement, sans déclencher le moindre signal d'alarme lorsqu'il utilisa la force neutralisante très spéciale qu'il avait à sa disposition. À l'intérieur du vaisseau, le seul signe tangible de la présence d'un intrus fut par conséquent le bourdonnement anodin, presque amical, de la sonnette du salon qui se mit à retentir lorsqu'une main se posa sur la petite cellule photoélectrique qui se trouvait sur l'un des montants du sas principal. Pendant que cette perquisition se poursuivait avec succès, Toran et Beïta éprouvaient un sentiment de sécurité tout relatif derrière les parois d'acier du Beïta. Le clown du mulet, qui leur avait annoncé que malgré sa frêle stature, il portait le nom imposant de Magnifico Giganticus, était assis derrière la table et engloutissait goulûment la nourriture déposée devant lui. Ses yeux bruns et tristes ne se levaient de son assiette que pour suivre les mouvements de Beïta dans la cubikitchenette où il se restaurait. « Les remerciements d'un faible sont de faible valeur, » déclara-t-il. « Mais je vous prie de les accepter néanmoins. Car voilà plus d'une semaine que seules des miettes me sont tombées sous la dent. Mon pauvre corps a beau être chétif, mon appétit n'en est pas moins gigantesque désormais. » « Eh bien, alors mange !» dit Beïta en souriant. « Ne perds pas ton temps en remerciements. Il y a, je crois, un proverbe des régions centrales qui dit quelque chose à ce propos. « En effet, gente dame, un sage, m'a-t-on dit, a déclaré un jour, la gratitude est louable et efficace quand elle ne se perd pas en phrases vides. Mais hélas, madame, je ne suis, semble-t-il, qu'un amas de phrases vides. Jadis, elles avaient l'heure de plaire au mulet. Cela m'a valu de pouvoir porter une tenue de cour extravagante et un nom à rallonge, car, voyez-vous, à l'origine, je m'appelais tout simplement Bobo. Mais ce nom-là, il ne l'aimait pas. Et puis, quand mes phrases creuses ont cessé de lui plaire, cela m'a valu bastonnade et coup de fouet. » Toran revint de la cabine de pilotage. « Rien à faire pour l'instant, Bey. Attendons. J'espère que le mulet est capable de comprendre qu'un vaisseau de la Fondation est territoire de la Fondation. Magnifico Giganticus, ci-devant Bobo, ouvrit de grands yeux et s'écria « Incomparable est la puissance de la Fondation, car devant elle tremblent même les cruels serviteurs du mulet. » « Tu as entendu parler de la Fondation aussi ?» demanda Beïta avec un petit sourire. « Qui n'en a pas entendu parler ?» répondit Magnifico, qui chuchotait désormais avec des airs de conspirateur. « Il en est pour prétendre que c'est un monde magique, infiniment puissant ?» et qu'on sait y faire naître des feux titanesques, capables de consumer les planètes elles-mêmes, et qu'on y connaît des secrets plus redoutables encore. On dit que même les plus grands personnages de la galaxie ne pourraient connaître les honneurs et la déférence que tient pour son dû un simple mortel pouvant dire « Je suis un citoyen de la Fondation », quand bien même il ne serait qu'un pauvre mineur, ou un moins que rien, comme moi. « Allons, Magnifico, » dit Beïta, « sois raisonnable. Tu ne finiras jamais ton repas si tu parles tout le temps comme ça. Tiens, voilà du lait aromatisé. Tu vas voir, c'est délicieux. » Elle posa un pichet sur la table et fit signe à Toran de la suivre hors de la cuisine. « Tor, qu'allons-nous faire de lui maintenant ? Que veux-tu dire ? Si le mulet vient, est-ce que nous allons le livrer ? « Ma foi, que veux-tu faire d'autre, Bey ? » demanda-t-il d'un ton qui semblait indiquer une grande lassitude, ce que confirma aussitôt le geste lent et fataliste avec lequel il repoussa une mèche de cheveux que la sueur collait à son front. « Avant de venir ici, » reprit-il, « je m'imaginais que nous n'aurions qu'à demander à voir le mulet et à nous mettre au travail. Je sais bien, Thor, moi aussi c'est pareil, je ne m'attendais pas vraiment à voir le mulet, mais... je pensais que nous pourrions recueillir au moins un ou deux renseignements de première main et les transmettre à des gens qui s'y retrouvent un peu mieux que nous dans toute cette embrouille interstellaire. Dans les romans, ça a toujours l'air facile de jouer les espions, mais je m'aperçois que je ne suis pas vraiment faite pour ça. Et moi donc ? » fit-il en croisant les bras. Quelle situation bizarre tout de même. On ne croirait jamais qu'il existe vraiment un personnage comme le mulet si nous n'avions pas rencontré ce bouffon. Crois-tu qu'il va venir chercher son clown ? Beïta leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas si j'en ai envie, en fait. même si cela arrangerait bien nos affaires. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et toi ? La sonnerie intérieure se mit à bourdonner par intermittence. Le mulet, articula silencieusement Beïta. Magnifico apparut sur le seuil, ouvrant de grands yeux, et il répéta des larmes dans la voix. Le mulet ? Il faut que je les laisse entrer. Je n'ai pas le choix, murmura Toran. Un contacteur ouvrit le sas et la porte extérieure se referma derrière le nouveau venu. Sur l'écran du scanner de bord, on n'aperçut qu'une seule et unique silhouette anonyme. Il n'y a qu'une seule personne, dit Toran soulagé. Il se pencha alors vers le tuyau de communication et ce fut d'une voix presque tremblante qu'il demanda « Qui êtes-vous ? » « Laissez-moi entrer. » C'est encore le meilleur moyen de le découvrir, non ? Répondit le visiteur. « Je tiens à vous informer que vous êtes à bord d'un vaisseau de la Fondation, et par conséquent, d'après les traités internationaux, vous vous trouvez sur le territoire de la Fondation. Je le sais. Venez sans armes, les mains bien en évidence, sinon je tire. Moi, j'ai ce qu'il faut pour ça. » « D'accord. » Toran ouvrit la porte intérieure et arma son désintégrateur, le pouce sur le déclencheur. Il y eut un bruit de pas, puis la porte s'ouvrit et Magnifico s'écria « Ce n'est pas le mulet, ce n'est qu'un homme. » L'homme s'inclina gravement devant le clown. Finement observé. « Je ne suis pas le mulet. » Il écarta les bras, paumes ouvertes. « Je ne suis pas armé. Et ma mission est pacifique. Vous pouvez vous détendre et ranger votre désintégrateur. Votre main tremble un peu trop à mon goût pour tout vous dire. « Qui êtes-vous ? » demanda brusquement Toran. « Je pourrais vous retourner la question. » dit l'étranger sans se démonter. « Après tout, c'est vous qui êtes ici sous de faux prétextes, pas moi. »« Comment cela ? » ?»« C'est bien vous qui prétendez être un citoyen de la Fondation, alors qu'il n'y a pas un seul marchand en ce moment officiellement sur toute cette planète. C'est faux ? Qu'en seriez-vous ? » ?»« Parce que moi, je suis un citoyen de la Fondation. Et j'ai des papiers qui le prouvent. Où sont les vôtres ? » Je crois que vous feriez mieux de sortir. Moi, je ne crois pas. Si vous connaissez les méthodes de la Fondation, ce qui, en dépit de votre imposture, reste fort possible, vous devez savoir que si je ne regagne pas sain et sauf mon bord à une heure convenue, l'alarme sera aussitôt transmise à la base de la Fondation la plus proche. Alors, d'un strict point de vue pratique, je doute fort que vos armes vous soient d'une grande utilité. Il y eut un silence gêné, puis Beïta dit calmement « Range ton désintégrateur, Toran. Tu peux le croire, à mon avis. » Il a l'air sincère. « Merci, » dit l'étranger. Toran posa son désintégrateur sur une chaise à portée de main. « Si vous vous expliquiez un peu, »